Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie, qui les condamnera. Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, et ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. C'est la parole de Dieu. Te demandons, Seigneur, par cette parole, de nous conduire, de nous permettre de modifier ce qui doit être modifié, de changer ce qui doit être changé, et d'avoir le courage et l'assistance de ton Saint-Esprit aussi de modifier nos comportements. Que cette parole soit agissante et efficace dans notre vie. C'est notre prière. Amen. Avant d'aborder ce texte, je dois tout de suite avouer qu'il y a au moins deux choses qui me gênent. Enfin, plus que deux, mais au moins deux choses qui me gênent dans ce texte. Et c'est le côté absolu. Nous savons. C'est pas, il se peut que, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Nous espérons. C'est nous savons. Il n'y a aucun doute dans l'esprit de l'apôtre Paul. Et ce côté absolu est parfois gênant dans notre monde de tolérance, où nous ne savons plus grand-chose, où nous n'avons plus autant d'absolu qu'autrefois. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ces deux mots. Toute chose. Nous savons que toute chose, pas certaines choses, la plupart des choses, plusieurs choses, toute chose concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. C'est profondément gênant de se trouver dans notre monde d'aujourd'hui devant des affirmations aussi exclusive. Nous savons toutes choses. Alors j'aimerais que l'on puisse poser des questions à ce texte ce matin. 5 questions. Donc pour vous qui êtes confortablement assises, vous savez que lorsque j'arrive à la 4e question, je suis presque à la fin et il est temps de vous réveiller. Donc, on y va. Première question que l'on doit se poser, c'est à qui ce texte est-il adressé. Alors, regardez. À ceux qui aiment Dieu. Et nous savons du reste que aucun de nous n'aime Dieu de notre propre initiative. Nous l'aimons, dit l'apôtre Jean, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Notre amour pour Dieu est une réponse à son amour pour nous. Nous avons été confondus par son amour et par conséquent, nous répondons à son amour, nous l'aimons. Premier indice dans le texte. Et deuxième indice, c'est toujours au verset 28, ceux qui sont appelés selon son dessein. Et appelés n'est pas dans le sens général où tous sont appelés, mais c'est finalement le verset 30 qui nous explique le sens de ce verbe appeler, ceux qu'il a prédestinés Il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il s'agit du sens efficace, effectif du verbe appeler. Autrement dit, ce texte s'adresse à ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont efficacement appelés au salut. Ce texte ne s'adresse qu'aux croyants. Voilà, première question. Deuxième question, et ça va s'allonger, hein, le temps consacré à chaque question au fur et à mesure. Hein. Donc, pour vous qui espérez que ça va être un message court, détrompez-vous. Quel est le rôle de Dieu dans ce texte? Quelle est la part qui revient à Dieu dans ce texte? Ce n'est pas dit directement, mais nous allons finalement décortiquer le texte pour le voir. Parce que Dieu a le rôle opérationnel dans ce texte. Il est aux commandes. Il faut faire très attention de ne pas assimiler ce texte à une fable pour enfants, où finalement tout se termine bien. Ils se marièrent, ils vécurent longtemps ensemble et eurent beaucoup d'enfants. On connaît donc ces fables pour enfants. Mais trop de chrétiens, finalement, réfléchissent à ce texte comme si c'était une fable pour enfants. Et il y a finalement un courant, y compris dans notre milieu évangélique, qui interprète ce texte de la manière suivante. Peu importe ce qui nous arrive, Dieu saura tourner la tragédie en bénédiction. Peu importe ce qui nous arrive, Dieu saura tourner la tragédie en bénédiction. Mais c'est faux. C'est faux. C'est fondamentalement faux. Parce que ça réduit le rôle de Dieu à celui d'un pompier ou d'un réparateur de carrosserie. Il intervient après la catastrophe. Peu importe ce qui nous arrive, il y a le feu, il y a l'accident de voiture, Dieu intervient après pour finalement tout tourner en bien. Non. Non, 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 non. Dieu n'est pas celui qui intervient après la catastrophe pour tourner, transformer la catastrophe en bien. Il est celui qui est au contrôle avant le feu, avant les catastrophes. Il est l'alpha et l'oméga. Il est au contrôle de notre vie. Et je vous propose donc la paraphrase suivante de cette phrase. Pour ceux qui aiment Dieu, il agit intentionnellement en toutes choses pour leur bien. Ces dernières semaines, je suis en train de lire les psaumes. Je suis presque au terme des psaumes. Et à plusieurs reprises, dans les psaumes des montées, j'ai été confronté à cette même vérité. Et cela m'a amené à réfléchir sur tout mon parcours. Depuis 60 ans que je suis chrétien, et tout ce qui m'est arrivé pendant ces 60 ans. Et en même temps, ça m'a amené à réfléchir sur mes fragilités, mes faiblesses. Et où je me rends compte que dans ma vie, il y a des domaines où je suis profondément fragile, et où, comme l'apôtre Paul, j'ai souvent prié, « Seigneur, éloigne de moi cette écharde dans ma chair. Si seulement tu enlevais de ma vie cette fragilité, cette faiblesse, je pourrais te servir avec d'autant plus d'efficacité. Je serais plus à même, finalement, de te suivre et de t'honorer. » Mais comme l'apôtre Paul, j'ai dû entendre à maintes reprises dans ma vie, depuis 60 ans de vie chrétienne, « Tais-toi, ma grâce te suffit. » Autrement dit, que Dieu intentionnellement laisse dans ma vie des faiblesses, des emprises, des fragilités, non pour me faire chuter, mais pour m'amener toujours à compter sur lui dans la dépendance. Et cela m'est extrêmement difficile, parce que j'aimerais être libéré. Jusqu'à quand, Seigneur, a été une prière constante depuis 60 ans. Mais non. Je dois revenir à cette vérité. Pour ceux qui aiment Dieu, il agit intentionnellement en toutes choses pour leur bien. Ce côté-ci de la chute, Et ce côté-ci de la consommation de toutes choses, Dieu me ramène constamment à la case départ. Et la case départ, dépendance, par la foi. Troisième question. Que signifie toute chose dans ce texte? Deux mots donc, comme je l'ai dit, fort dérangeants. Mais pour les comprendre, il faut aller à la fin du passage que nous avons lu, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et il énumère. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune. Toutes ces choses. Toutes ces choses. La mort, souffrance, maladie, déclin, accident. Avec Sylvia, mon épouse, à l'âge que nous avons, nous sommes en train de réfléchir de plus en plus à notre dernière étape de vie. Nous sommes de l'autre côté des 75 ans, 75 ans, donc il faut quand même préparer. Et ce qui est émotionnellement très difficile, nous nous efforçons de faire. Parce que nous savons qu'à un moment donné, l'un ou l'autre de nous deux va se trouver devant le cercueil de l'autre. Et au lieu, finalement, de se trouver devant ce cercueil, en révolte et en crise, il nous faut mettre en place nos convictions théologiques pour pouvoir, non en étant sans émotion ou sans souffrance, mais il faut avoir en place nos convictions pour pouvoir affronter la mort, la vie. Parfois, on pense que la vie, c'est l'opposé à la mort, donc c'est toujours bien, gai. Pas du tout, la vie. Il y a quand même l'échec scolaire, le chômage, enfant handicapé, trisomie 21, enfant qui dérape, un enfant finalement qu'on a tenté d'élever dans la foi, où on a inculqué tous les principes, qu'on a su comment faire, et puis on le voit à un moment donné qui, paf, la vie comporte énormément de moments difficiles à gérer. Le présent, il y en a qui mettraient là tout de suite la crise économique, le futur, d'autres mettraient les menaces écologiques, monde invisible, invisible, création animale, végétale, la liste n'est pas exhaustive, hein. L'homme non régénéré avec l'hostilité, la persécution, l'homme régénéré avec ses égoïsmes, ses jalousies, ses rivalités, nous-mêmes, toute chose. En lui, nous avons été aussi mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. C'est d'après tes ordonnances que les choses subsistent aujourd'hui, car toutes sont à ton service. Toutes choses, la mort, la vie, le présent, le futur, toutes choses. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Toute chose. Et voilà le mot le plus difficile dans le texte. Que signifie ce mot « bien » ? Que signifie ce mot « bien » ? Et notre problème fondamental à chacun, en tout cas c'est le mien, problème fondamental avec ce texte, c'est ce mot « bien ». Parce que j'ai tendance à définir ce mot pratiquement en contradiction avec la définition de l'Écriture et la définition de Dieu. Pour moi, quand je pense à mon bien, je pense famille, santé, retraite, maison, amitié. Bref, je pense à mon bien-être. Et malheureusement, nous sommes entourés aujourd'hui dans notre monde évangélique par quantité de faux prophètes qui finalement mettent tout l'accent sur l'épanouissement de l'être individuel. Dieu, finalement, c'est le soleil qui tourne autour de notre nombril. Il est finalement celui qui existe rien que pour notre bien. Mais le problème, c'est que nous avons interprété bien par finalement mon bien-être, mon épanouissement personnel. Mais ce n'est pas ce que dit l'Écriture. Quel est le bien dont il s'agit ici dans le texte. Et c'est le verset 29. C'est pour ça que nous avons lu tout ce passage. C'est le verset 29 qui nous le révèle. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être... Ah, vous n'avez pas votre Bible avec vous. Ça, c'est dramatique. C'est comme un type qui se promène dans la rue sans pantalon. C'est dramatique d'être dans l'église sans Bible. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ça, c'est le bien que Dieu vise dans notre vie. Le bien que Dieu veut pour chacun d'entre nous, c'est d'être transformé en l'image de son Fils. Et toutes les choses qui contribuent à nous façonner à l'image de son Fils sont fonctionnellement bien, pas intrinsèquement bien, mais fonctionnellement bien. On ne dit pas dans le texte que la tragédie est bien, que la maladie est bien, que le deuil est bien, que la souffrance est bien, que le chômage est bien. Non. Mais il dit qu'au travers de toutes ces choses, Dieu s'en sert, tragédie, maladie, pour nous transformer en l'image de son Fils. Je vais illustrer de deux manières. Lorsque nous sommes confrontés au drame et aux tragédies de la vie, notre première réaction, et c'est légitime, notre première réaction est de poser la question pourquoi. On se rend compte que là, on se trouve devant un enfant handicapé ou devant un accident qui laisse quelqu'un paraplégique. Et immédiatement, surtout lorsque émotionnellement on est affecté par ce drame, on pose la question pourquoi. Et la question est légitime à un moment donné dans notre parcours. Mais si nous persévérons dans cette question pourquoi, pour nous chrétiens évangéliques qui aimons Dieu et qui sont appelés selon son dessein, pour nous, ça peut sombrer dans l'incrédulité. Le pourquoi peut finalement indiquer que nous n'avons plus confiance en Dieu, que nous ne comprenons plus ses desseins, son but, nous transformer en l'image de Christ. Et mon épouse, qui a travaillé surtout auprès des personnes en fin de vie et en oncologie, elle m'a, à un moment donné, appris quelque chose de fondamental dans le parcours d'accompagnement auprès de ces personnes. Transformer nos « pourquoi » en « vers quoi ». Et à un moment donné, dans notre manière de gérer les difficultés de la vie, il est légitime de se poser la question « pourquoi ?» Mais à un moment donné, dans notre réflexion en tant que chrétien attaché à la parole, il faut que cette réflexion nous conduise vers quoi ? Et le « vers quoi ?» C'est de nous transformer en l'image de Christ. Deuxième illustration, et pour moi c'est l'une des illustrations les plus émouvantes de toute l'Écriture, l'Ancien Testament. Il y a cette femme, Sunamite, stérile, et suite à la visite du prophète Élisée, tombe enceinte. Quelques années après, elle est le témoin de la maladie et de la mort de son fils. Et lorsque Élisée lui rend visite, et lorsqu'il lui pose cette question, « Ton mari va-t-il bien ? L'enfant va-t-il bien ?» Elle répond, dit, « Tout va bien. » Elle a compris le sens du mot « bien ». Tout va bien. Je suis un apprenti dans la vie chrétienne. Il y a encore souvent dans mon cœur des questionnements, parfois des moments de révolte devant les situations que je constate autour de moi. Pourquoi ?
tout va bien. La dernière question. Que veut dire coopérer ou concourir, ce verbe que l'on trouve dans notre texte au verset 28? Et le mot vient d'un mot grec qui est traduit souvent dans notre langage par synergie. Qu'est-ce synergie? C'est lorsque nous prenons plusieurs composants disparates sans aucun rapport apparent entre eux, et lorsque nous les mettons ensemble pour finalement créer une nouvelle unité qui prend tout son sens. Je m'explique. Illustration. Une chaîne de construction automobile. Nous avons les pare-brises, les boîtes de vitesse, nous avons les leviers de vitesse, à moins qu'on ait une voiture automatique. Nous avons finalement toutes sortes de pièces. Et lorsque nous sommes finalement en début de la chaîne de construction automobile, on regarde toutes ces pièces et on fait le constat, mais aucune de ces pièces, individuellement, n'a une utilité propre, n'a de valeur propre. Mais lorsque nous prenons toutes ces pièces et nous les mettons petit à petit ensemble, et lorsque nous arrivons à la fin de la chaîne, nous avons une voiture flambant neuve. Bien sûr, pour moi, ancien britannique, ça ne peut être qu'un Rolls-Royce. Jamais une Renault vulgaire. Rolls-Royce, bien entendu. Synergie veut dire que nous prenons finalement tous ces composants apparemment sans utilité propre, et lorsque ces composants finalement sont ajoutés pièce à pièce, nous constatons finalement qu'il y a une entité qui en sort, qui a toute son utilité. Dieu utilise tous les composants différents de notre vie. Et pour certains de ces composants, on peut se poser la question, mais quelle est son utilité? On croit à quoi ça sert? Et d'une certaine manière, on peut conclure, mais en lui-même, ce composant n'a aucune utilité, sans valeur propre, surtout quand on parle à la tragédie ou à l'échec. Mais petit à petit, vous regardez la fin de la chaîne de la fabrique de Dieu, un chrétien transformé en l'image de Jésus-Christ. Ce n'est pas un accident de parcours, c'est la volonté de Dieu. Plusieurs de ces composants sont mauvais, indésirables. Plusieurs de ces composants sont du ressort de notre ennemi, Satan. Mais Dieu ne veut jamais nous faire du mal, mais finalement il peut prendre toutes ces pièces de notre vie, apparemment sans valeur intrinsèque, et il les utilise. Et celui qui a commencé en nous une œuvre bonne, il va la poursuivre pour l'achever pour le jour de Jésus-Christ. Et donc, pour conclure, je relis ce verset, mais en l'adaptant pour qu'il soit beaucoup plus personnel. Pour toi qui aimes Dieu, il agit intentionnellement en toute chose pour ton bien. Et toutes les choses qui contribuent à te façonner à l'image de Jésus-Christ sont fonctionnellement bien. Je relis. Pour toi qui aimes Dieu, il agit intentionnellement en toutes choses pour ton bien. Et toutes les choses qui contribuent à te façonner à l'image de Jésus-Christ sont fonctionnellement bien. Prions. Seigneur, tu connais les circonstances que nous vivons les uns et les autres. Tu connais les joies, mais aussi les peines que les uns et les autres vivent, gèrent en ce moment. Ces difficultés liées à notre vie sur planète Terre et où cela devient parfois fatigant, lassant. Accorde-nous la grâce de pouvoir lever nos yeux vers l'Éternel, grand et redoutable, pour que nous puissions percevoir devant nos questionnements le tableau. Le tableau de l'artiste divin qui va achever cette œuvre. Pardonne-nous toutes les fois où nous doutons de ta bonté, de ton amour. Pardonne-nous toutes les fois où il y a en nous-mêmes des moments de révolte ou de rébellion. Et veuille t'en servir de ces moments pour que nous puissions avancer pas à pas avec toi dans ton projet divin pour la gloire de ton nom. Amen.